Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à tous, au cœur de l'April et de Libre à vous. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Nous présenterons le groupe de travail Sensibilisation, notre chapril qui vous propose des services en ligne libres et loyaux, notre action de plaidoyer politique, et nous ferons une annonce concernant l'émission. Donc restez à l'écoute. Avec également au programme la chronique d'Isabella Vanni sur la fête des possibles et la chronique d'Antanac sur un sujet surprise par je ne sais pas de quoi Isabelle va parler. Voilà le sommaire de cette émission. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toute question. Nous sommes mardi 14 septembre 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion au podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Adrien Bourmeau, bénévole à l'April. Bonjour Adrien.
Salut.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Parler d'actions de sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le libre fait sa code » de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le sujet du jour, la fête des possibles. Donc je vais passer la parole à Isabella, qui est en face de moi au studio. C'est à toi Isabella.
Merci Fred. Bonjour, nous allons présenter la nouvelle édition de la fête des possibles, qui a lieu partout en France et en Belgique du 10 au 26 septembre, donc c'est déjà commencé, avec Marie Seyé de l'équipe de coordination de l'initiative. Marie est normalement avec nous au téléphone. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Donc je disais, la fête des possibles, une initiative qui a lieu chaque année en septembre. Pourrais-tu nous rappeler en quoi ça consiste ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité. Du coup, la fête des possibles, comme tu l'as dit, c'est un événement national qui a lieu en septembre et qui, du coup, invite celles et ceux qui portent des initiatives locales de transition à organiser ce qu'on appelle des rendez-vous, mais qui sont équivalents d'événements, pour présenter justement ces initiatives et les rendre visibles auprès de tout le monde. Voilà. Et du coup, en fait, la fête des possibles, c'est un peu le prétexte ou l'occasion d'organiser la porte ouverte de son habitat participatif ou de son AMAP, ou encore d'organiser un atelier pratique sur le zéro déchet ou sur Linux, par exemple.
Très bien. Effectivement, l'April est partenaire de la fête des possibles et nous invitons chaque année les organisations autour du libre à promouvoir les logiciels libres à l'occasion de cette initiative en proposant effectivement des événements pour faire découvrir les logiciels libres au grand public. Tu disais qu'il y a plusieurs types de rendez-vous et donc, si je comprends bien, ce ne sont pas forcément des rendez-vous qui sont créés spécifiquement pour la fête.
Non, tout à fait. Un peu tout peut passer sur la fête sous l'identité de la fête. Ouais, on va vraiment de porte ouverte toute basique à des projections débats en ligne, en passant par des vélorutions, des espèces de manifestations à vélo, en proposant des choses plus ludiques, des ateliers fresques pour climat. Et il y a vraiment tout un tas de formats.
Et c'est qui organise les événements ? Parce que si j'ai bien compris, je connais le principe de la fête, mais pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, en fait, l'équipe de coordination coordonne la fête. Donc, vous avez le site web qui permet notamment d'inscrire les événements et de voir où sont. Mais après, c'est qui organise ces événements ?
Eh ben, c'est toi, moi, le voisin, la ville d'à côté. C'est aussi les antennes locales de tous les partenaires de la fête, parce qu'il y a à peu près une grosse soixantaine de partenaires nationaux de la fête des possibles. Et en fait, il suffit d'être porteuse ou porteur d'une initiative sur son territoire et d'avoir envie d'organiser un événement à l'occasion de la fête. Et voilà, il faut aller ensuite sur le site de la fête et inscrire le rendez-vous pour qu'il apparaisse sur la carte. Le seul gros critère, c'est que celui-ci soit gratuit ou à prix libre et qu'il, bien sûr, il soit en lien avec des thématiques de transition. Mais voilà. N'importe qui, finalement.
Et tu me disais cette année, lors d'un échange précédent, que cette année, il y a aussi les collectifs qui s'occupent du pacte pour la transition qui ont été invités à proposer des événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus, rappeler par exemple qu'est-ce que c'est le pacte pour la transition et qui sont ces collectifs de citoyens?
Oui, je vais vous la faire courte et il vous restera sûrement des questions en tête. Mais du coup, le pacte pour la transition, c'est un outil de plaidoyer citoyen. Il comprend 32 mesures à mettre en œuvre à l'échelle locale, donc c'est des mesures de transition, donc sur les thématiques sociales, démocratiques, écologiques. Donc je vous invite à taper pacte pour la transition sur internet et aller voir ces 32 mesures. Et du coup, ce pacte, il a fait l'objet d'engagements signés de la part des candidats aux élections municipales de 2020. Voilà, l'idée, c'était une co-signature entre des collectifs citoyens qui se sont montés et qui se sont emparés de l'outil et les listes candidates aux élections. Et du coup, aujourd'hui, on est un an après, un petit peu plus d'un an après la fin des élections, après le deuxième tour.
L'occasion de faire un bilan.
Oui, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on s'est dit. Et on s'est dit que ce serait intéressant de le coupler à la Fête des Possibles, puisque ce sont deux projets qui sont portés par la même association. Et du coup, voilà, on a invité ces collectifs citoyens qui se sont saisis du pacte à organiser des rendez-vous à l'occasion de la Fête des Possibles pour à la fois présenter justement ce qui s'est fait ou même ce qui ne s'est pas fait sur leur territoire depuis les élections, et puis aussi organiser des événements en lien avec les mesures sur lesquelles ils travaillent. Par exemple, je me suis noté quelques exemples pour vous en parler. Dans le Finistère, on a la commune de Plouganou qui a pas mal travaillé sur les questions de mobilité active et qui propose un circuit à vélo dans la ville pour aller voir une nouvelle voie cyclable créée, mais aussi ce qui n'existe pas encore, et etc. Et du coup, profiter de l'occasion pour en discuter, sensibiliser les gens qui vont venir et aussi leurs élus. Et un autre exemple, c'est la ville de Salon de Provence. Enfin, du coup, pas la ville, mais le collectif citoyen qui porte le pacte à Salon de Provence, qui organise une journée sur la thématique de quel serait Salon de Provence, un Salon de Provence résilient en 2051. Donc voilà, tout un tas d'activités.
En perspective.
Voilà.
Merci. Et ça c'est une nouveauté en fait qui met en lien les deux événements majeurs organisés par l'organisation à laquelle tu appartiens. Si tu peux me le rappeler.
Collectif Transition Citoyenne.
Voilà, Collectif pour la Transition Citoyenne qui organise justement coordonne la Fête des Possibles et le pacte pour la transition. Mais c'est pas la seule nouveauté cette année. Vous avez voulu aussi proposer des formations en ligne qui sont accessibles en direct, puis également sur une chaîne Peertube. Donc, oui. Je crois que c'est une nouveauté de cette année.
Oui, carrément. On n'avait pas du tout cette offre de formation avant. Du coup, depuis avril, et une fois par mois, on propose des formations à ceux qu'on appelle les créateurs et créatrices des possibles. C'est du coup ceux qui organisent des événements à l'occasion de la Fête des Possibles. Mais ces formations, elles sont finalement aussi ouvertes à n'importe qui a l'info. Et du coup, on en a fait sur comment communiquer au sujet de mon événement, quelles sont les questions logistiques et administratives à se poser et à faire autour d'un événement. Comment animer ce type d'événement. On a aussi fait un truc sur comment organiser une projection débat en ligne, parce que je pourrais en parler. On a aussi un nouveau partenariat avec Imago TV cette année. Et du coup, voilà une offre de formation qui se poursuivra un petit peu après la fête. Et comme tu disais, tout est revisionnable en ligne sur Peertube.
Rappelons que Peertube est un service en ligne libre, donc on est particulièrement contents.
On est thématique.
Tu parlais de tous les aspects administratifs, logistiques. J'imagine que vous avez aussi parlé des aspects liés aux conditions sanitaires qui se sont améliorées, mais qui ne sont pas forcément encore entrées dans la normalité. Qu'est-ce que vous avez proposé aux personnes qui voulaient organiser des événements par rapport à cet enjeu?
On a surtout proposé d'en discuter, parce que les mesures sanitaires, elles ont beaucoup évolué pendant l'été et que ce qu'on pouvait figurer début juillet n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait figurer à la fin de l'été. Et du coup, il y avait surtout un besoin de se rassurer les uns les autres, de voir ce que les uns faisaient pour s'adapter ou pas. Est-ce que justement, il y a même eu des cas d'annulation vis-à-vis de l'application du pass sanitaire, etc. Mais on a aussi, du coup, de notre côté, proposé le fait d'organiser des événements en ligne. Donc, je parlais d'Imago TV, qui est cette plateforme d'information sur laquelle on retrouve des contenus vidéo et audio sur les thèmes de la transition, et du coup, c'est possible, on a proposé d'organiser des projections débats en ligne.
Et je crois que vous avez Pardon, je crois que vous avez aussi proposé la possibilité de inscrire les événements à d'autres dates pour ceux
oui.
qui...
Oui. Oui, on a ouvert la carte, c'est comme ça qu'on appelle ça, au-delà de la période du 10 au 26, sachant qu'en fait on concentre la communication nationale sur cette quinzaine, mais qu'il est possible d'enregistrer n'importe quel événement qui rentre encore, qui rentre dans la charte, sur la carte, sur toute l'année, du coup. Effectivement.
Tu parlais d'événements ligne, je profite pour dire que parmi les événements Libris autour du livre qui ont été proposés, il y a aussi des événements de l'organisation CartONG qui cartographie en fait les zones qui ne sont pas visibles encore sous les cartes, et donc c'est une information hyper utile pour les communautés locales et pour les organisations humanitaires, et c'est justement des événements en ligne, donc je pense que notre temps va se terminer bientôt, donc je remercie Marie d'avoir été avec nous, et je rappelle bien évidemment les dates du 10 au 26 septembre. En plus, ça se tombait bien comme timing parce qu'aujourd'hui, on est dans la semaine en fait que vous avez souhaité consacrer à l'informatique libre. Donc, vous parlez aussi de l'April dans vos posts. Et donc, du 10 au 26, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fête des Possibles, les références sur la page consacrée à l'émission sur le site de l'April, pour voir la carte, la vue géographique qui vous permet de trouver les événements, les rendez-vous près de chez vous. Merci encore, Marie, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup et bonne suite d'émission.
Merci.
Merci à vous deux. Donc, c'était la chronique Le Libre fait sa com' d'Isabelle Avani. Donc, avec Marie Cellier de l'équipe de coordination de la Fête des Possibles, on va rappeler le site web fête-despossibles.org, donc du 10 au 26 septembre 2021 et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Vous retrouverez les événements Libris sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Et Marie, tout à l'heure, a parlé du pacte pour la transition. Dans les mesures du pacte de la transition, il y a une mesure qui concerne la priorité au logiciel libre portée par l'April, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure avec mon collègue Étienne Guenu. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal avec notre groupe de travail sensibilisation, notre Chapril qui propose des services libres et loyaux en ligne et nos actions institutionnelles, le plaidoyer politique et ainsi qu'une annonce importante concernant Libre à vous. Nous allons en attendant écouter Don't Get It par Damien Ogorodov. C'est un choix d'Isabella. C'est le même titre que celui qu'une chanson du premier album de Mark Knopfler, qui est aussi connu pour avoir été le guitariste de Dire Straits. Mais ce n'est pas une reprise de ce morceau. Le style rappelle néanmoins beaucoup celui de Mark Knopfler. C'est peut-être une façon de lui rendre hommage. Isabella vous laisse le choix de faire votre propre opinion. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
I'm all alone.
Cause Commune, 93.1.
Guess it's just them beer drinking women who make me so cold. Said, don't you get it? I said, I don't know. Then go alone. Told about them troubles in the city I came from. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Asking the clouds to stop the rain. We've been sitting here for a hell lot of hours. Words and rain. I said this place has been quiet so far. She said, let's make it louder. So we were dancing, we were shaking up the bar. The alcohol. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Don't you be alone with a crazy mind and
you get it.
Nous venons d'écouter Don't Get It par Damien Ogorodov, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal intitulé « Au cœur de l'April et de Libre à vous ». Nous allons présenter quelques actions de l'April, notre groupe de travail sensibilisation, notre chapril qui propose des services libres et loyaux, et nos actions institutionnelles, le plaidoyer politique. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Mais d'abord, quelques petits rappels sur le logiciel libre, sur l'émission Libre à vous, et l'annonce en exclusivité que vous attendez toutes et tous. Alors d'abord sur le logiciel libre. Aujourd'hui encore, la majorité des logiciels proposés via les canaux de distribution classiques sont dits privateurs, c'est-à-dire que leur licence contient des restrictions à leur utilisation. A contrario, un logiciel est dit libre quand il accorde explicitement par sa licence la liberté de l'utiliser sans restriction, mais également celle d'étudier son fonctionnement, de le copier, de le modifier, de le redistribuer. C'est l'accès au code source du logiciel, sa recette de fabrication, qui permet l'accomplissement de ces quatre libertés fondamentales. Ce que je viens de vous dire est un extrait qu'on peut trouver sur le site de l'Expo Libre, expolibre.org. Expo Libre est justement l'un des projets de notre groupe Sensibilisation. C'est une exposition itinérante avec une dizaine de panneaux qui explique les logiciels libres au grand public. Donc je vous invite à visiter expolibre.org. Peut-être qu'à l'occasion de cette rentrée de septembre, vous découvrez l'émission Libre à vous. Bah écoutez, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous savoir avec nous. Depuis 2018, nous proposons donc une émission de radio intitulée Libre à vous sur la radio Cause Commune. L'émission est proposée par l'April, donc qui est l'association de promotion et de défense du logiciel libre, notre site web april.org. Avec Libre à vous, notre objectif est de vous permettre de prendre le contrôle de vos libertés informatiques, de découvrir les enjeux, l'actualité du libre et également des moyens d'action. Et également de faire découvrir des découvertes musicales libres, des pépites libres, choisies avec soin, soit par l'équipe d'animation, soit par Eric Frodin du site auboutdufil.com. Cette émission est une action importante pour la promotion et la défense des libertés informatiques, notamment parce qu'elle permet de toucher un très large public, notamment par la bande FM. Libre à vous est une émission d'explication et d'échange concernant les dossiers politiques et juridiques que l'April traite et les actions qu'elle mène. Une partie de l'émission est également consacrée aux actualités et actions de type sensibilisation. Enfin, l'émission permet également de donner la parole à des personnes et des structures externes, comme on l'a fait tout à l'heure avec la Fête des Possibles, avec un vrai temps de parole radiophonique. Il y a eu jusqu'à présent, excusez-moi, plus de 110 émissions. Il faut savoir qu'il fait très chaud au studio, et avec le masque, c'est un peu difficile de respirer. Alors après cette petite présentation de Libre à vous, l'annonce. Pour cette nouvelle saison, nous avons le plaisir même plutôt de vous proposer un site web dédié aux émissions Libre à vous. L'adresse, libreavoue.org. Tout simplement. Donc ce site est en pré-ouverture depuis quelques minutes à l'occasion de l'émission. La période de pré-ouverture, c'est une période pendant laquelle en fait, le site est accessible, mais on ne fait pas une annonce large, excepté aux centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices de Cause Commune, évidemment, ce qui nous permet notamment de vérifier que tout fonctionne bien. Donc si vous notez des bugs ou si vous avez des commentaires, vous pouvez les signaler par courriel à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Donc on vous annonce cette pré-ouverture rien que pour vous. Vous pouvez y aller dès maintenant, je rappelle l'adresse libreavoue.org. Les podcasts des émissions existantes ont été importés par un script qui a été écrit par un bénévole et sont disponibles. Donc comme tout import automatique, il y a forcément quelques erreurs ou import imparfait. Ce site dédié a pour but déjà de mieux valoriser les émissions, facilitant par exemple la recherche d'un contenu précis. Mais la mise en place de ce site, c'est aussi l'occasion de vous proposer de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas pour le moment prévues sur les sites existants. Alors première fonctionnalité, le lecteur audio. Le lecteur audio des podcasts propose deux fonctionnalités utiles. La première, c'est la gestion des chapitres. La gestion d'un chapitre vous permet d'accéder directement à l'un des sujets traités dans l'émission. Si par exemple vous voulez réécouter la prochaine fois la chronique d'Isabella Vanni, vous pourrez directement cliquer sur le chapitre consacré à l'émission au sujet d'Isabella. La deuxième chose, c'est le paramétrage de la vitesse de lecture. Le paramétrage de la vitesse de lecture permet par exemple d'accélérer la vitesse si vous êtes une personne pressée, par exemple si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais accélérer peut être tout simplement indispensable pour des personnes touchées par des troubles de déficit de l'attention, qui ont donc besoin de limiter le temps qu'elles passent à écouter quelque chose. A l'inverse d'accélérer, vous pouvez voir ralentir la vitesse, par exemple pour faciliter la compréhension et prendre le temps de bien s'imprégner des propos, notamment dans le cas où les personnes parlent vite, comme c'est mon cas. Vous pouvez aussi vouloir ralentir la vitesse pour faciliter la compréhension pour les personnes dont le français n'est tout simplement pas la langue native. Et enfin, on va penser à Marie-Odile pour faciliter une transcription. Donc ça, c'est au niveau du lecteur audio. Autre fonctionnalité très intéressante, vous pouvez accéder directement à la page consacrée à une émission avec juste le numéro de l'émission. Par exemple, si je vous dis qu'on a parlé du lecteur multimédia libre VLC dans l'émission numéro 42 du 29 octobre 2019. Vous pouvez écouter le podcast sur la page libreavoue.org/42. C'est pratique, non? Donc là, je vois que mon collègue fait le test pour vérifier que ça fonctionne. J'espère que c'est le cas. Et puis, dernière fonctionnalité, vous pouvez commenter et noter. C'est-à-dire, vous pouvez commenter les émissions et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Cela nous ferait d'ailleurs chaud au cœur de recevoir des témoignages, si possible d'amour, évidemment, de celles et ceux qui nous écoutent. J'en profite pour refaire un grand merci aux bénévoles qui ont mis en place ce site. Antoine Bardelli, Jean Galland et Vincent Calame. Donc c'est une préouverture. Donc si vous avez des remarques, vous nous les envoyez sur bonjour@libreavoue.org. Si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez pas. Et ce site va évidemment évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça c'était les annonces. N'hésitez pas à venir aussi sur le salon web de la radio si vous voulez nous faire des remarques. Hein. Causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et on va passer donc au sujet suivant. Alors on va faire sans jingle, ou non, on va faire sans jingle en fait, comme on a un peu improvisé là-dessus. On va passer maintenant au groupe de travail sensibilisation. Hein ? On va voir si... Donc je sais pas si...
Je suis toujours là.
Tu es toujours là. Alors le groupe de travail sensibilisation, donc c'est une des actions menées par l'April. Donc là, l'animatrice, c'est donc ma collègue Isabelle Avani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous avons normalement avec nous un bénévole qui participe au groupe sensibilisation, Fabrice Noël. Fabrice, est-ce que tu es avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Parfait, super. Donc on va parler un petit peu du groupe sensibilisation, à la fois ce que vous faites, le mode de fonctionnement, etc. Donc déjà première question tout simplement, Isabella, c'est quoi le groupe sensibilisation ?
Donc à l'April, il y a plusieurs groupes de travail auxquels peuvent participer à la fois les salariés comme moi, les membres de l'April et même des personnes qui ne sont pas membres. C'est le cas du groupe de travail sensibilisation qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez adhérent de l'April ou pas. Et c'est un groupe qui a pour but, pour vocation, de produire des outils de communication pour sensibiliser notamment le grand public aux enjeux des logiciels libres. Donc des outils de communication sont très variés. Ça peut être des dépliants, des affichettes qui expliquent ce que sont les logiciels libres ou les formats ouverts. Tout à l'heure, Fred, tu as parlé de l'Expo Libre, qui a une collection de 8 panneaux qui expliquent justement les enjeux de logiciels libres au grand public et qui sont exposés à l'occasion d'événements divers et variés. Ça peut être aussi des goodies, donc par exemple des mugs, des t-shirts avec des slogans et avec l'adresse, le site web de l'April. On a fait aussi des décalcomanies à un moment. Et ces dernières années, en fait, on s'est concentré sur deux projets qui sont donc le jeu du gnou, donc un jeu de plateau. On s'est lancé dans cette aventure, donc pour créer quelque chose qui puisse faire l'affaire aussi avec des enfants, donc avec un public plus jeune, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde et c'est un jeu coopératif avec qui fonctionne à travers des questions. Donc on va sensibiliser les personnes à travers des questions et à travers la discussion et à travers la coopération. Et en ce moment, on travaille actuellement sur un autre projet qui s'appelle La boussole du libre, qui sera décliné plutôt en format papier, mais aussi en page web, dont l'idée, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais dans l'idée justement d'orienter le grand public vers des sites web qui puissent l'aider à libérer sa machine. Donc c'est vraiment tout outil de communication qui peut sensibiliser le grand public à nos enjeux.
D'accord. Alors Fabrice, toi donc tu es un bénévole, ça fait combien de temps que tu contribues au groupe de travail de sensibilisation ?
Alors en fait, je pense que ça fait largement plus d'un an, mais j'avoue que je me souviens plus trop. J'ai un petit problème avec les dates.
D'accord.
Avec la pandémie, on a tous un peu de problème avec les dates, je pense.
Ah, justement, tout à l'heure, j'aurai une question sur la pandémie. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé par le fait de contribuer à ce groupe précis de travail sensibilisation d'April ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces activités de ce groupe ?
Alors en fait, moi j'ai découvert le libre il y a une bonne paire d'années maintenant. Enfin, quand je dis une bonne paire, c'est peut-être une dizaine d'années. Et en fait, le principe du libre, c'est de pouvoir justement s'associer à des projets et s'associer de manière un petit peu universelle, dans le sens où effectivement tout le monde n'est pas développeur, tout le monde ne va pas aider au développement d'un logiciel libre, tout le monde n'est pas traducteur parce que tout le monde ne maîtrise pas non plus plusieurs langues étrangères. Donc il y a plein de manières différentes de contribuer au libre. Et en fait, ça, c'en est une. C'en est une, comme plein d'autres, d'essayer de trouver des personnes qui vont permettre de sensibiliser les autres à tout ce microcosme un petit peu libre. Et en fait, le groupe sensibilisation, je pense, est un élément important, puisque comme son nom l'indique, on va vraiment sensibiliser les gens au fait que une autre informatique existe et que dans ce domaine-là, en fait, tout est possible et que tout ça n'a rien à envier aux géants du numérique qu'on connaît, en fait.
D'accord. Aujourd'hui, donc, le groupe Sensibilisation existe depuis quelques années maintenant, enfin depuis même de nombreuses années. Donc justement, avant la pandémie, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite, il y avait principalement, le groupe était organisé donc par des échanges par mail, un espace aussi de documents partagés, et puis des réunions physiques de temps en temps au local de l'April, à Paris, dans le 14e. Isabella, qu'est-ce qu'a changé la pandémie, dans un sens positif ou négatif, dans l'organisation du groupe Sensibilisation ?
Alors, juste une petite correction par rapport au lieu où les réunions...
Ah oui, c'est à la Fondation pour le Progrès de l'Homme.
Ouais. Tout à fait. Peut-être qu'on a fait aussi à l'occasion des réunions aussi... Non, peut-être. On a sûrement fait aussi des réunions à l'occasion dans le locaux de l'April. Et en fait, on avait l'habitude de se retrouver une fois par mois donc à la Fondation pour le Progrès de l'Homme, qui se trouve dans le 11e arrondissement à Paris. Pourquoi ce lieu-là ? Pourquoi ne pas faire au local de l'April ? Mais parce qu'en fait, le jeudi... il y avait les soirées de contribution au libre, donc une initiative de l'association Parinux, groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à Paris. Et donc, c'était une initiative pour inviter toutes les personnes qui souhaitaient contribuer à des projets libres, et comme le disait Fabrice, on peut contribuer de mille façons différentes, à se retrouver physiquement au même endroit. Comme ça, pour une fois, on n'était pas derrière nos ordinateurs à uniquement à échanger via les salons de chat, mais on pouvait se voir, se rencontrer, se connaître, papoter, prendre un apéro entre une ligne code et une discussion. Et donc c'était vraiment une chouette idée. Mais voilà, avec la pandémie, on a dû se réorganiser et on a donc switché sur un format différent, donc un format en ligne à distance, en visioconférence, en profitant par ailleurs du service de visioconférence Chapril, qui est visiochapril.org. Qui est basé sur un logiciel libre, bien évidemment, qui s'appelle Jitsi et qui peut être installé sur n'importe quel serveur. Donc il y a potentiellement infinie instance de ce logiciel, ce qui nous a permis de continuer à faire nos réunions à distance, ce qui a permis à des personnes comme Fabrice, qui n'habitent pas Paris ou la région parisienne, de se joindre à nos réunions, et ce qui nous a permis aussi, et ça j'en parle en tant que vraiment salarié, de intensifier, en fait, d'augmenter la fréquence des réunions, parce que pour le coup il n'y avait plus le temps de trajet, il y avait une organisation de travail, vous savez, à un moment on a tous télétravaillé, donc cela m'a permis de faire plus de réunions. Donc à un moment il y avait même une fréquence d'une réunion par semaine. Maintenant, comment dire, les activités se sont intensifiées, donc les choses commencent à s'améliorer petit à petit, donc j'ai préféré diminuer la fréquence, mais on est à deux réunions par mois, donc un jeudi sur deux à vrai dire. Donc ça peut être aussi trois jeudis selon les mois.
Alors Isabella, tu te demandais à quoi servait le truc que t'as devant toi. C'est quand tu fais ça, par exemple, pas qu'on entende le bruit de bras. Voilà.
Ah ok, pardon.
Je lui signale simplement. J'essaie de lui
Il faire fallait le mettre partout alors, pas
voilà,
que.
Exactement. Fabrice, donc toi tu disais que tu arrivais dans le groupe il y a un peu un an. Donc pour rebondir sur ma question et sur la réponse très détaillée d'Isabella, le fait que le groupe propose des réunions à distance, toi t'as permis de contribuer. Je sais pas d'ailleurs, je me souviens pas si tu habites la région parisienne ou pas, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu ces espaces de visioconférence, est-ce que tu aurais pu contribuer aussi facilement que tu l'as fait ?
Alors, aussi facilement, oui et non, dans le sens où j'habite en Normandie, donc je ne suis pas très loin de Paris non plus. Hein. Par le train, je crois qu'il me faut 1h20 pour aller gare Montparnasse. Comme j'ai fui, moi, la région parisienne après une trentaine d'années de bons et loyaux services sur Paris, en fait, du coup, ça m'embêterait de revenir toutes les semaines sur Paris, en fait, pour être très clair. Donc, la visio nous permet de pouvoir contribuer sans les désagréments d'un déplacement sur Paris, tout simplement.
D'accord. On va parler un petit peu des projets rapidement, parce que le principe de cette émission, enfin de ce sujet long, c'est de faire trois focus courts sur trois actions de l'April. Donc Isabella, tout à l'heure en introduction, tu as parlé du projet de boussole du libre. Alors peut-être que je vais demander à Fabrice d'expliquer ce qu'est ce projet de boussole du libre sur lequel vous travaillez actuellement.
Eh bien, en fait, tout simplement, la boussole du libre, c'est un outil qui sera décliné de différentes manières, qui va nous permettre d'orienter, en fait, le grand public vers justement ce qu'est le libre et permettre d'orienter, comme son nom l'indique, une boussole permettre d'orienter le grand public pour leur dire où trouver de l'aide, où trouver des logiciels libres, où trouver tel ou tel type de ressources, etc., etc. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, effectivement, le web regorge de ressources et d'informations sur le libre, mais en fait, c'est pas toujours évident de tomber sur la ressource bien complète, la ressource bien à jour, la ressource qui va traiter le sujet dans sa globalité, etc. Donc, en fait, l'idée de notre boussole, c'est effectivement d'identifier les bonnes ressources pour le grand public, pour qu'ils aillent tout de suite dans la bonne direction, d'où le nom, bien évidemment, de la boussole du libre.
Alors, Isabella, donc si je comprends bien, contrairement par exemple à l'Expo Libre qui a vocation à être des panneaux imprimés pour être mis dans des événements, là, si je comprends bien, c'est plutôt des ressources web, donc sur un site web. Alors comment vous les cherchez, comment vous les sélectionnez ces ressources ?
Alors, comme tu disais, c'est destiné à être une ressource web qui oriente, qui redirige vers d'autres ressources web, mais ça sera aussi quelque chose de très utile à avoir sur papier pour quand on est sur les stands et quand il y a des néophytes qui arrivent sur les stands et qui demandent mais où est-ce que je peux trouver ça, où est-ce que je peux trouver de l'aide, où est-ce que je peux trouver une association qui m'aide, etc. Donc là, on aura quelque chose à lui donner tout de suite. Comment on trouve les liens ? Bah, et effectivement, au départ, il y a eu une collecte de liens, donc on a appelé sur la liste sensibilisation qui est notre liste de discussion, tout le monde, je rappelle que tout le monde peut s'inscrire à cette liste, on a appelé les personnes à contribuer, donc soit en participant en réunion, soit en rajoutant des liens qui leur semblaient intéressants, légitimes, directement sur le bloc-notes de travail. Donc nous on travaille avec ce qu'on appelle PAD ou bloc-notes, donc c'est un éditeur de test en ligne, donc tout le monde peut écrire dessus et ça permet en fait de travailler vite, c'est comme un brouillon si vous voulez, mais en ligne. Et effectivement, donc on a trouvé, je pense, 150 liens, un truc comme ça, vraiment une énorme collection de liens. Et à ces moments-là, on a passé à la deuxième phase qui était la sélection, donc le tri. Et on a évincé des liens qui nous semblaient, comme disait justement Fabrice, il nous semblait pas, les pages indiquées n'étaient pas forcément très à jour ou maintenues régulièrement. Donc on a fait une présélection et après on a redispatché tous les liens qu'on a trouvés dans les différents besoins qu'on a identifiés, donc trouver de l'aide, trouver du matériel libre, trouver des services en ligne libres, trouver des ressources pour les associations. Il y a vraiment plusieurs besoins qu'on a identifiés. Et après, pour chaque besoin, l'idée, c'est de pré-mâcher le travail, c'est-à-dire de faire une sélection des meilleurs liens web. On veut vraiment se limiter à 5-6 liens pour chaque besoin pour que vraiment les personnes ne se sentent pas perdues devant trop d'options.
Et d'un point de vue planning, peut-être la question pour Fabrice, est-ce que vous en êtes ? On est au début de la recherche de liens, vous avez une prévision d'avoir une pré-version de cette boussole du libre d'ici quelques semaines, quelques mois, où vous en êtes d'un point de vue planning ? Si vous avez une idée.
On a bien avancé, hein. On est parti au départ, je sais pas, avec 600 liens peut-être.
Non, 600, c'est trop. C'était beaucoup.
Non, c'est trop.
Oui, non, mais c'était quelques.
Enfin, on avait plusieurs centaines de liens.
Il y en avait beaucoup. Après, je sais pas. Ah ben, c'est pas important.
Voilà. Et puis on a écrémé au fur et à mesure. Là, je dirais qu'on est plutôt rentré dans la phase finale où en fait il nous reste pour chaque sujet quelques liens. Et donc on les repasse en revue tous ensemble afin de les valider, mais je crois qu'il nous reste encore quand même quelques séances de travail à faire, n'est-ce pas Isabella ?
Oui, je confirme. On a comment tu as justement rappelé, on a déjà sélectionné des liens, une dizaine de liens par besoin, et il faut les écrémer pour arriver à 5-6 max. Et pendant les réunions, en fait, on se retrouve, on fait un tour de table météo pour voir la météo intérieure, comme aime dire Fred. Et puis on passe en revue. Donc tout simplement, on arrive sur les sites web qu'on a identifiés, on en discute. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chacun porte ses arguments et puis, à bout d'un moment, on prend la décision, on tranche, parce que voilà, on peut pas tout mettre. Donc si vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez pas à venir aux réunions un jeudi sur deux. Donc la prochaine réunion, c'est le 23 septembre à 17h30. en ligne les réunions sont annoncées en fait sur à la fois sur le site de l'April dans notre agenda, donc sur le site de l'agenda du Libre qui est le site de référence pour tous les événements autour du Libre et donc aussi les événements en ligne proposés par l'April, et sont signalés aussi sur la liste de discussion. Donc vous pouvez participer aux réunions. D'ailleurs, l'avis de plusieurs personnes est toujours intéressante parce que nous on a l'habitude en fait de parler de ces sujets, mais comme c'est un projet qui est destiné à faire une ressource pour le grand public, bah c'est intéressant d'avoir justement des avis qui puissent nous alerter. Attention, ce site peut-être il est pas assez ergonomique ou attrayant pour un néophyte. Donc tous vos retours sont utiles et vous pouvez les faire pendant les réunions, mais vous pouvez aussi les faire directement sous le bloc-notes de travail. Vous pouvez les faire aussi en écrivant sous les listes. Donc il y a vraiment plein de façons différentes de contribuer.
Fabrice, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion ? Soit sur le groupe, soit sur ton propre implication dans le groupe.
C'est aussi fun hein, d'être venu à sensibilisation. On se marre bien. Hein.
Tu confirmes, Fabrice ? Est-ce que Fabrice est encore avec nous ? Alors, cher Adrien, je pense que nous n'avons plus Fabrice, ou en tout cas, il ne nous entend plus. Bah écoute, c'est pas très grand, on va peut-être le récupérer tout à l'heure, mais là, de toute façon, on arrive à la... Il vient de se déconnecter. Bon, de toute façon, c'était la fin un petit peu de l'échange, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'il fasse une phrase de conclusion. En tout cas, on le remercie de contribuer. De retour, tu nous entends, Fabrice ? Non, il n'est pas drôle.
Oui, je suis revenu, je ne sais pas, il y a eu un petit souci, mais ce n'est pas grave. Non, alors, juste effectivement, petite correction, je parlais de plusieurs centaines de liens. Alors, effectivement, Isa a raison, j'ai un petit peu exagéré. On est quand même parti avec plus de 200 liens, mais on en a tellement vu, j'avais l'impression qu'on en avait fait des milliers, en fait.
D'accord. Et voilà. Est-ce que tu as un mot de conclusion ?
On est quand même parti avec plus de 200 liens. Un mot de conclusion, non, en fait, c'est hyper passionnant ce qu'on fait, hyper prenant, parce que en fait, on s'aperçoit que sensibiliser, c'est compliqué, parce qu'en fait, nous-mêmes, on est parfois surpris de pas trouver une ressource qui parle de tel ou tel sujet, qui est bien accessible au public, dans un site ergonomique, bien présenté, etc. On s'aperçoit qu'en fait, tout n'existe pas forcément, et donc, c'est ça qui est intéressant dans la démarche, en fait.
D'accord.
Et je peux dire que justement, ce qui est bien dans les réunions, dans le groupe sensibilisation, c'est qu'on fait les choses ensemble. Comme tu dis, sensibiliser parfois c'est compliqué. C'est pour ça que on est ensemble, on est plus intelligent à plusieurs souvent, et donc on s'entraide, on discute, et c'est grâce à l'échange qu'on peut trouver des bonnes idées.
Eh bien, écoutez, merci donc à Isabelle Avani et Fabrice Noël. Si vous participez à la prochaine réunion, vous allez sur april.org, vous avez l'annonce avec les informations pour se connecter au site de Visio et également pour rejoindre la liste de discussion si vous voulez. Donc, c'était le groupe de travail sensibilisation. Avant de passer au sujet suivant, et donc juste après la pause musicale, on va aborder le sujet du Chapril, donc notre service qui propose notre site qui propose des services libres, loyaux. Mais avant, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Arcane par Claude Kecker. C'est un choix de mon collègue Étienne Gonu. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker, qui est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. C'était un des choix coup de cœur de mon collègue Étienne Gonu, qu'on retrouvera tout à l'heure.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Eh bien, nous allons poursuivre notre présentation d'action de l'April. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon. Libre à vous. Nous allons parler du Chapril avec Pitchoum. Ça va, Pitchoum ?
Ça va.
Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, tu venais vous parler du Chapril, qui est un site qui propose des services en ligne libres et loyaux. Donc, déjà, première question, présente-nous un petit peu ce qu'est concrètement le site Chapril.
Alors, il n'y a peut-être pas besoin de rappeler ce que c'est qu'un chaton, mais donc le Chapril.
Ah, si, il y a besoin de rappeler ce qu'est un chaton, je pense.
Alors, Chapril, c'est le chaton qui a été créé à l'initiative de l'April. Et donc, un chaton, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif de soit des particuliers, des associations ou même parfois des entreprises qui proposent des services en ligne en alternative aux GAFAM, on peut le dire. Et donc voilà, donc ce sont des services qui ont la particularité d'être des services qui respectent une charte, qui donc proposent de respecter une certaine éthique. Donc tous les chatons, normalement, adhèrent à la charte chaton qui est disponible normalement sur le site chaton.org.
Alors chaton avec un S, et qu'est-ce que ça veut dire chaton ?
Je sais plus, mais c'est un acronyme qui
veut dire c'est un acronyme pour le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui a été créé en 2016 à l'initiative de Framasoft. Et donc le Chapril, c'est entre guillemets le chaton, c'est la contribution de l'April à ces chatons. Et donc c'est un site, donc chapril.org, qui propose donc un certain nombre de services en ligne libres et loyaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots libres et loyaux ?
Wow.
Déjà libre.
Ce sera ma définition, hein, évidemment. Libre, non, j'aurais plutôt dit des services éthiques.
Éthiques, d'accord. Alors, pourquoi
alors peut-être que libre fait référence au fait qu'on utilise des logiciels libres.
Je pense, oui.
Mais pour moi, c'est pas ça l'objectif premier des chatons. Il se trouve que c'est une nécessité pour rendre des services éthiques qui respectent les données personnelles. C'est un passage obligatoire d'utiliser des logiciels libres.
D'accord, donc le fait que pour toi, c'est d'abord des services éthiques, et pour qu'ils soient éthiques, ils doivent reposer exclusivement sur des logiciels libres. Et sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, une charte sur laquelle on s'engage, donc une charte qui est disponible sur le site chaton avec un S, alors comme dirait Christian Momont, c'est
chatons.org.
Voilà, donc le Chapril a été ouvert en...
Alors ça, je sais pas.
En 2018. Il y a combien de services actuellement, ou en tout cas, quels sont les principaux services qui sont proposés? Tu peux en citer par exemple deux ou trois qui sont utilisables par toute personne qui pourrait avoir un vrai usage.
Je crois qu'il y a une dizaine, il y a peut-être 13 ou 14 services actuellement. Je crois que ça a commencé avec trois services qui sont pour moi les services emblématiques des chatons parce que c'était les plus populaires. Donc un pad. Chez Chapril, c'est pad.chapril.org.
Ah, attends, c'est quoi un pad?
Alors justement, j'allais expliquer. Donc un pad, c'est ce qu'a dit Isabella tout à l'heure, hein, c'est un outil qu'on utilise nous, en tout cas beaucoup dans le milieu associatif libriste. C'est un outil de rédaction de texte à plusieurs. Donc c'est nous, typiquement, dans les associations où je suis, on s'en servait pour prendre des notes à plusieurs lors des réunions. Ce qui fait que c'est très pratique parce que on se connecte tous sur la même page. Et pendant la réunion, tout ce qui est dit, n'importe qui autour de la table qui a un laptop sous la main ou un téléphone portable peut prendre des notes au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de personne dédiée au compte rendu, et ce qui fait que les comptes rendus sont finis à la fin de la réunion.
D'accord. Donc ça, c'est un bloc-notes en ligne collaboratif.
Voilà.
Il n'y a pas besoin de se créer de compte. C'est très simple d'usage. On peut directement taper le texte. Donc ça,
exactement.
C'est l'un des premiers services. Tu voulais en citer d'autres?
Alors les trois premiers j'ai regardé, donc c'était le pad parce que c'est très populaire. Il y a le date.chapril.org qui permet de prendre des rendez-vous ou d'organiser des mini-sondages où le but c'est de coordonner plus de 5 personnes. C'est très difficile par échange de mail ou par échange de SMS. Donc en général ce qu'on fait c'est qu'on crée un sondage de type date. Il y en a d'autres de type. On envoie le lien à tout le monde. On attend quelques jours et à la fin on a le résultat. Voilà, la meilleure date pour notre réunion c'est jeudi soir à telle heure.
D'accord.
Et le troisième, il me semble que c'est Pouet, donc tu confirmes?
Je ne suis pas sûr, je pense que peut-être Drop est arrivé avant, pour le partage de fichiers peut-être.
Alors peut-être, mais en tout cas Pouet est aussi emblématique, c'est le serveur Mastodon de l'April, enfin utilisé par l'April en tout cas. Donc Mastodon, en deux mots, c'est un Twitter fédéré, libre, neutre, enfin voilà, bio.
D'accord.
Et donc ça pour moi c'est les trois premiers services qui ont été mis en place. À ma connaissance, ça a été mis en place par essentiellement trois personnes. Et depuis, le Chapril a beaucoup grossi. Et peut-être que c'était ta prochaine question, je sais pas.
Non, alors en fait, ma prochaine question, c'était donc le Chapril. Donc sur chapril.org, vous allez trouver, là je parle aux personnes qui nous écoutent, des services qui vont vous être très utiles. Donc je parlais de Drop à l'instant pour par exemple partager des fichiers de manière en plus sécurisée. Donc il y a un certain nombre de services. Ça, c'est le point de vue usager, on va dire, la personne qui utilise. Mais comment fonctionne le Chapril ? C'est une sorte de groupe de travail de l'April, c'est une action de l'April. Je crois qu'il y a ce que Christian appelle des anim 6, donc c'est des animateurs ou animatrices de services. Donc quel est votre rôle, vous, en tant que personne qui anime un service ? C'est quoi animer un service, Chapril ?
Alors, d'une part, ça a des aspects techniques, c'est-à-dire que c'est à nous d'installer le service, donc c'est du logiciel à déployer, donc on lit de la doc, on teste dans notre coin. Une fois qu'on a un service qui est en ligne, on diffuse au plus grand nombre l'adresse du service, donc par exemple date.chapril.org. Et après ça, l'animation, ça consiste essentiellement à faire du suivi de bugs, de faire du support utilisateur, qui ont parfois des gens ont des problèmes avec les services. Ils ont une adresse mail qu'ils peuvent contacter. Donc pour moi, c'est essentiellement ça, c'est faire du support et du suivi, vérifier que le service tourne toujours. Et puis chaque mois, alors on a une réunion mensuelle entre les animateurs de tous les services, ce qui fait qu'on se tient au courant les uns des autres de qu'est-ce qui s'est passé sur chaque service et quels sont les problèmes rencontrés. On échange parfois des solutions qu'on a sur un service qui peuvent servir à d'autres services. Voilà.
D'accord. Et cette réunion a lieu justement sur l'un des services du Chapril, qui est le service d'audioconférence basé sur le logiciel libre Mumble. Et ça a lieu une fois par mois entre 20h45 et une certaine heure. Pour avoir assisté à la dernière, ça peut durer un certain temps, mais ça paraît effectivement essentiel. Toi, alors avant on va parler un peu après, enfin peut-être tout de suite après du service que tu animes, mais toi tu... Alors Chapril, comme beaucoup d'activités de l'April, c'est pas du tout réservé aux membres de l'April pour contribuer. Toi, je sais même pas si tu es membre de l'April, mais c'est pas une question, je te demande pas ta carte de membre. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi toi, en tant que donc informaticien, tu as souhaité contribuer à Chapril en participant à un service, et on parlera du service juste après.
Alors déjà, je tiens à dire que je suis en règle. Je suis membre de l'April. Je l'ai fait la semaine dernière pour être à jour. Et alors, répète-moi ta question, la vraie question.
Pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de contribuer du temps à installer un système, passer du temps chaque mois à participer à une réunion qui dure quand même un certain temps, qu'est-ce qui te motive ?
Alors moi, ce qui me motive, c'est le service dont on va parler tout à l'heure. C'est un service que moi j'héberge par ailleurs chez moi depuis des années. C'est un service que j'aimerais faire adopter au plus grand nombre.
Alors parle du service tout de suite, présente-le alors.
Donc le service qui m'a fait entrer chez Chapril, c'est le service de messagerie instantanée XMPP. Donc sans rentrer dans les détails, c'est un équivalent de WhatsApp. Hein, où vous pouvez échanger du texte, des photos, des vidéos avec vos proches.
Je vais me permettre de préciser qu'on a déjà parlé de la messagerie instantanée en détail XMPP dans l'émission 91 du 26 janvier 2021. À l'époque, c'était d'ailleurs une émission animée par Adrien. Si vous avez bien suivi, pour retrouver facilement le podcast, vous allez sur... libravou.org/91. Voilà, exactement. Donc, messagerie instantanée XMPP, c'est ça qui t'a motivé à rentrer. Voilà, qu'est-ce que fait ce service en quelques mots ?
Donc, c'est de la messagerie instantanée qu'on peut utiliser aussi bien sur téléphone comme la plupart des gens aujourd'hui, mais aussi sur PC pour les vieux comme moi, parfois même dans un terminal pour les plus geeks. Mais ça remplit les mêmes fonctions.
Donc, quand on parle messagerie instantanée, voilà, c'est WhatsApp, Signal et compagnie.
Ouais.
Sauf que c'est. Alors, je renvoie évidemment à l'émission 91 pour les détails. Sauf que c'est plus éthique, tu dirais, c'est plus respectueux des données personnelles,
c'est
etc.
C'est bio.
C'est bio, d'accord.
Et donc, l'intérêt, c'est que on vous promet, parce qu'on est dans le cadre des chatons, qu'en utilisant ce service-là, on ne fera aucune exploitation commerciale de vos données personnelles. C'est essentiellement ça, l'atout majeur de ces services.
Donc toi, tu es arrivé quelque part par un intérêt personnel pour un service et tu t'es dit, il y a une structure qui propose un chaton, donc chapril.org. Donc est-ce que c'est simplement le fait que finalement, on va le dire, hein, tu travailles dans une entreprise avec laquelle on partage les locaux, ou plutôt qui nous héberge, hein, Easter Eggs. Est-ce que c'est la proximité humaine qui a fait que tu t'es dit, je vais contribuer à ce chaton-là, ou une autre raison ?
Est-ce que... pour être honnête, avant Chapril, j'avais déjà installé des services XMPP dans deux autres associations.
D'accord.
Donc c'est un truc que je fais couramment, quoi. C'est mon activité du week-end. Et il se trouve que ça s'est fait chez Chapril, il me semble, grâce à toi. Parce qu'effectivement, quand on travaille tout près l'un de l'autre, on mange souvent ensemble le midi. Et je crois qu'un jour, tu as dû me parler d'une réunion April technique. Et je pense que c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Mais effectivement, moi, je suis venu chez Chapril parce que j'y voyais une autre opportunité de promouvoir ce type de service.
D'accord. Alors, on mange souvent ensemble. Je veux dire, on mangeait souvent ensemble.
C'est vrai, c'était avant la pandémie.
Avant une certaine période. Mais on aura bientôt le plaisir de remanger assez souvent ensemble. Ça, j'ai un peu oublié ma question que je... C'était... Ah oui, donc toi, tu viens pour ce service-là. Tu l'as dit, bon, c'est peut-être un peu moi qui t'en ai parlé. Quel était ton sentiment dans l'accueil, dans la... Parce que, pour un peu suivre comment Christian... Alors, Christian Momont, c'est l'animateur en chef du Chapril. Comment t'as trouvé cet accueil par Christian, l'intégration, on va dire, dans l'équipe des animateurs et animatrices du Chapril ?
Eh ben alors, j'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais j'ai tendance à considérer que la façon dont on est accueilli au sein de Chapril est vraiment exemplaire. Je suis aussi dans un autre chaton où c'est plus artisanal. Donc, avec Christian, donc CPM, le chef du Chapril, moi, c'est comme ça que je l'appelle, hein. Enfin, tout est cadré, c'est très organisé. Voilà, on est pris par la main, carrément. C'est-à-dire que moi, en tant qu'animateur du service XCPP, mon intérêt perso, pour le dire comme ça, c'est de mettre à disposition du grand public un service qui me paraît nécessaire pour la société. Mais ça implique beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'il faut installer des serveurs, il faut les maintenir en vie, tout ça. Et chez Chapril, c'est ça qui est génial pour nous, les Anim6, qui venons pour animer un service. Il y a toute une partie dont on ne s'occupe pratiquement pas, parce que c'est Christian, Quentin et Pollux qui s'occupent de la partie infra-technique. Et Christian s'occupe, en plus de la technique, il s'occupe de l'accueil, de l'animation des réunions. Voilà, donc c'est un peu... Le Chapril repose énormément sur les épaules de Christian, et je l'en remercie. À la fin de chaque réunion, je me dis qu'on le remerciera jamais assez. Donc, chez Chapril, je pense qu'on a un chaton particulier. Je suis pas sûr que tous les chatons aient la chance d'avoir cette façon de fonctionner, cette organisation-là.
D'accord. Donc, effectivement, juste préciser, ça c'est intéressant, c'est qu'une personne qui anime un service ne gère que l'installation de son service, et pas forcément de l'ensemble du serveur qui gère tous les services. Ça, c'est une autre équipe qui s'en occupe. Donc effectivement, c'est une sorte de confort, entre guillemets, parce que voilà, on n'a pas besoin de maîtriser toute l'installation d'un système libre pour installer son propre service. Donc ça, c'est important. Alors, je vois le temps file, et ensuite, on doit encore parler de plaidoyer, et puis il y a Isabelle, sans doute, Carrère qui va arriver. Dernière question, dernière question rapidement. Comment, quand tu parle autour de toi du Chapril, est-ce que tu arrives à convaincre les gens, par exemple, d'utiliser ton un des services, pas forcément XMPP, mais d'autres services, le Drop ou XMPP?
Alors, je suis très mauvais en sensibilisation, même si je suis quelqu'un de particulièrement convaincu. Donc, moi, ça fait des années que je milite pour ce genre de sujet, mais ça fait aussi des années maintenant que j'arrête de me battre parce que je sais que je suis pas bon pour ça. Et donc, j'évite de le faire. Et ce qui est bien avec Chapril, c'est qu'il y a une vitrine, le site chapril.org est quand même assez bien fait pour que on n'ait pas besoin de reposer sur mes talents d'orateur pour faire de la communication.
D'accord. Bon, en tout cas, tu t'en es très bien tiré dans cet échange. Donc, les gens qui nous écoutaient, si vous voulez découvrir ces services et l'utiliser, ben, vous allez sur chapril.org. Vous avez 13 services disponibles et d'autres vont arriver parce qu'effectivement, l'équipe s'agrandit. Je sais qu'on a, Christian a recruté une nouvelle animatrice qui arrive pour s'occuper d'un des services. Donc, n'hésitez pas, chapril.org, et à en parler le maximum autour de vous. Tous ces services, je précise, sont d'usage libre. En fait, ils sont fournis librement et totalement gratuitement pour toute personne qui le souhaite. Et notamment, il y a un service qui est intéressant, c'est celui de la valise, qui est basé sur Nextcloud, qui est un environnement qui vous permet de partager des photos, des contacts, etc., avec des outils de synchronisation pour téléphone mobile. Donc, c'est vraiment très très bien. Écoute, Pichoum, je te remercie. Belle fin de journée.
Merci à toi.
Alors, on va enchaîner tout de suite donc avec mon collègue Étienne Gonu, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le choix coup de cœur de la musique arcane par Cloud Kicker. Donc là, on a vu deux activités de l'April, qui sont l'un, sensibilisation, donc plutôt créer des outils de sensibilisation à usage du public sur des stands ou autres, et le Chapril qui est fournir des services. Mais une autre activité de l'April qui est menée de façon depuis très très longtemps, hein, c'est l'action de, on va dire, de plaidoyer politique, de dossier institutionnel. Mais en fait, tu vas nous expliquer tout ça. Toi, Étienne, donc tu es chargé de mission affaires publiques depuis 2016.
Ouais, janvier 2016.
Donc, je fais partie de l'équipe salariée de l'April. J'ai oublié de préciser que les Anim6 du Chapril sont en fait bénévoles. Donc déjà, je voudrais que tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle d'un chargé de mission affaires publiques à l'April.
L'action institutionnelle, et donc moi mon rôle là-dedans, pour synthétiser, je pense qu'on peut dire qu'on essaye d'influer sur les pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte de ce qu'on considère être l'intérêt général, donc l'utilisation du logiciel libre, la défense des libertés informatiques. Ça peut parfois prendre la forme, on va dire, d'une forme de défense du logiciel libre. On va défendre le logiciel libre lorsqu'on va percevoir qu'il y a un risque pour les libertés informatiques dans la manière dont veut être, on va dire, menée des politiques publiques. Pour citer un exemple très rapidement, une des luttes historiques à laquelle a participé l'April, et victorieusement, ça a été de lutter contre les brevets logiciels, qui sont une grave menace pour les libertés informatiques dans le cadre d'un projet de règlement européen sur les brevets. Donc l'April s'est mobilisé à cette occasion pour créer un rapport de force favorable pour renverser ce dangereux projet. C'est une action qui va parfois se traduire plus dans une logique de promotion. Là, de même que par exemple, d'un point de vue grand public, dans le travail de sensibilisation, on appelle à donner une priorité au niveau individuel au logiciel libre dans nos usages quotidiens, eh bien, on appelle de même, et dans toute logique, à mettre en œuvre une priorité logiciel libre dans une dimension collective, c'est-à-dire typiquement dans les administrations, de point de vue public. C'est pour ça qu'on défend notamment l'inscription d'un principe normatif, c'est-à-dire dans la loi, d'une priorité au logiciel libre. Là, je parle de loi, donc effectivement, c'est un véhicule, on va dire, dans lequel on travaille souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions ou des projets de loi qu'on va voir arriver. On va essayer d'identifier si ce sont des véhicules législatifs, justement, sur lesquels on peut essayer d'avoir une action, qu'elle soit en défense, ou alors on va essayer d'identifier s'il y a une menace ou s'il y a une opportunité pour faire avancer nos convictions. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on perçoit des pratiques dans des administrations. Là, je pense au ministère des Armées qui, depuis des années, renouvelle des contrats avec Microsoft, et donc pour nous il y a un vrai enjeu en termes de politique publique à sortir de cette dépendance là et donc là on va essayer aussi d'installer un rapport de force pour que des politiques publiques soient mises en œuvre pour sortir de cette état de dépendance.
Peut-être aussi préciser quand donc tu parles effectivement dans les véhicules législatifs et cette priorité logicielle que très souvent, les amendements qui sont portés ne sont pas forcément adoptés par le Parlement, mais ça permet une sensibilisation, notamment il y a quelques années, une heure de débat autour de la priorité logicielle libre, et même dans les rapports, et là je vais faire référence à ton interview de Philippe Latombe dans l'émission 113 de Libre à vous, donc la semaine prochaine, donc si vous avez retenu Libre
à vous.
La semaine dernière, oui. Libreavoue.org/113, dans ce rapport de Philippe Latombe le député Latombe sur la souveraineté numérique, il appelle à une priorité au logiciel libre. Toi, quand tu as vu ça, quand on a vu ça, comment tu as reçu ça? Parce que c'était un peu surprenant quand même qu'il aille aussi loin en tant que parlementaire.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, notamment. Alors, tu le disais quand tu as introduit notre échange. Moi, je suis arrivé à l'April en 2016, et quand je suis arrivé, il y avait justement un projet de loi très important sur la table qui était pour une République numérique.
Le projet de loi d'Axel Le Maire.
Exactement. Et là, Claude, nous, on a donc poussé un amendement, et c'est effectivement là où il y a eu une grosse heure de débat, ce qui est rare sur un amendement unique, pour installer une priorité au logiciel libre. Et ça, effectivement, donc des débats riches, et déjà ça, c'est quelque chose de positif, mais bon, d'importantes résistances. Donc ça, c'est 2016-2017, et puis c'est vrai que le temps passant, le logiciel libre s'installe quand même dans les débats. Alors, il va s'agir, mais ça, c'est aussi le sens de l'action de l'April, de traduire ça en acte. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, même si on percevait une montée en puissance dans ce rapport de force, un rapport de force qui est de plus en plus favorable peut-être au logiciel libre, dans les arbitrages, dans les politiques, c'est toujours à mitiger, à nous dire qu'il est urgent de pas trop agir non plus. Et dans un rapport parlementaire qui, en plus, Philippe Latombe fait quand même partie du groupe majoritaire, alors il est député MoDem,
ouais.
Et on s'attendait pas à une prise de position aussi radicale, car il dit, voilà, il faut imposer un recours systématique au logiciel libre, le logiciel, alors dans ses mots propriétaires, mais donc le logiciel privateur de liberté, devant devenir l'exception dans les pratiques des administrations. Et c'est vrai que ça nous a stupéfait presque de pouvoir lire une position aussi radicale dans un rapport parlementaire. Et d'ailleurs, Philippe Latombe, je pense qu'on l'a identifié, parce que c'est aussi le travail peut-être en tant que chargé de mission affaires publiques. Et puis alors on a une liste de travail, le groupe Atelier, qui est un des rares, si ce n'est le seul groupe réservé aux membres de l'April, parce qu'on va parfois parler de sujets un peu sensibles ou qui nécessitent un petit peu de discrétion selon les sujets. Quoi qu'il en soit, voilà, notre travail c'est aussi d'identifier des députés ou des sénateurs, ou en tout cas des acteurs de la vie institutionnelle, qui ont une sensibilité pour nos enjeux et sur qui on peut s'appuyer. Philippe Latombe faisait effectivement partie de ces députés, mais moi, on ne l'attendait pas peut-être à ce niveau de position sur le logiciel libre.
Tout à fait, oui. Alors justement, tu parles de la liste Atelier, donc qui est une liste interne de l'April. Jusqu'à présent, la plupart des activités dont on a parlé au sein de l'April sont effectivement ouvertes à toute personne. Il y a deux exceptions, c'est l'admin-si, c'est-à-dire les gens qui gèrent les serveurs pour des questions de confidentialité. On préfère que ces gens-là, qui sont des bénévoles, soient membres de l'April. Et la deuxième exception, entre guillemets, parce qu'elle est réduite en fait, je pense que tu vas l'expliquer, c'est effectivement le dossier institutionnel. Pourquoi il y a une liste interne sur laquelle on commence à élaborer nos positions avant de les publier?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et je pense que peut-être que tu en verras rajouter. lorsqu'on fait de l'action politique de ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même un aspect de gérer aussi sa communication, à partir de quel moment on va commencer à agir, parce que notamment, lorsqu'on va apporter, voilà, avoir des propositions d'un moment, l'exemple classique de nos actions, c'est on voit un projet de loi arriver, on va se dire, tiens, on va proposer un amendement. Un amendement, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de modification du texte qui va être discuté, que ce soit d'abord à l'Assemblée ou au Sénat, une proposition de modification qui va être donc discutée par les parlementaires, puis voter oui ou non. Donc tout l'enjeu, nous on peut pas proposer est-ce que ce soit mis à discussion, mais on peut proposer ces éléments de modification à des parlementaires qui pourront ou non le déposer pour qu'il soit discuté. Alors c'est sûr, si on le fait entre guillemets trop tôt, si on n'a pas encore bien élaboré nos stratégies et que ça peut faire du bruit, alors ça, l'enjeu n'est pas le même sur toutes nos propositions, eh bien on sait que des résistances en face vont pouvoir se mettre en place plus rapidement. Et donc il y a quand même un jeu un petit peu quelque part, c'est important de savoir aussi prendre par surprise, c'est-à-dire ne pas laisser les résistances et les résistances réactionnaires en face se mobiliser, parce que alors nous on a de l'énergie, on a des bénévoles et convaincus et qui sont prêts à se mobiliser. On n'a pas les moyens que vont avoir les Microsoft, les Google ou les autres tenants d'une informatique privatrice. Donc voilà, c'est important de pouvoir s'organiser de cette manière aussi. Et puis on va avoir peut-être parfois, parce qu'on a des contacts de confiance, qui vont peut-être nous donner des documents en avance, en off, comme on peut dire. Donc c'est aussi une relation de confiance de pouvoir discuter entre nous de ces documents qui nous ont été remis en confiance.
Oui, c'est ce que j'ai rajouté. C'est aussi important d'avoir un espace de discussion de toute confiance auquel on peut élaborer nos propres réflexions sans être surveillé par l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit un public ou un gouvernement d'ailleurs. Avant de faire ma dernière question, tout à l'heure en introduction, parce qu'Isabelle est arrivée et pour sa prochaine chronique, et avant de ma dernière question, en introduction, j'ai parlé de plaidoyer politique, c'est-à-dire la défense d'un intérêt, une vision particulière de l'intérêt général. Et j'ai retrouvé en préparant l'émission une explication qui était fournie par Benoît Cibot, ancien président de la April, concernant justement les termes lobbying, contre-lobbying, advocacy, groupe de pression. Et Benoît disait, nous avons entendu tous ces termes nous concernant, et le plus juste est bien évidemment advocacy, qu'on traduit par plaidoyer. Oui, nous travaillons à diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont notamment les responsables politiques et les journalistes, mais pas seulement. Mais nous ne défendons pas notre intérêt commercial, nous agissons dans l'intérêt général. Nous ne sommes pas des mercenaires capables de soutenir n'importe quelle thèse pour de l'argent. Et surtout, nous travaillons dans la transparence. Nos positions sont connues, nos documents sont publiés. Nous n'organisons pas des soirées au champagne pour convaincre. Nous n'offrons pas de jolis cadeaux. Nous n'avons pas honte d'apparaître dans les débats. Mais nous suivons une stricte neutralité sur le plan de la politique mandataire. Et nous n'avons pas à faire dans le people, la starisation non plus. Je trouvais que c'était un bon résumé de nos actions. Alors, dernière question. Toi, tu es arrivé donc il y a maintenant 5 ans au poste d'affaires publiques. Qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu as de participer à cette action citoyenne dans une structure qui reste relativement petite, hein, faut quand même le dire.
C'est très gratifiant. Alors déjà, moi, j'éprouve beaucoup de fierté. Au-delà du sujet qu'on défend, moi, je trouve que l'April a un mérite énorme, c'est de la cohérence. On a un cadre, on a un collectif humain, donc effectivement, il y a le salarié, il y a le conseil d'administration de l'April qui est bénévole, il y a des membres bénévoles. C'est une association qui ne met pas, on va dire, la lutte pour ses convictions au-dessus du bien-être des personnes qui se mobilisent. La fin ne justifie pas tous les moyens. Au contraire, je pense qu'il y a ce souci de la cohérence, c'est-à-dire qu'on défend une certaine vision d'un intérêt général, de l'émancipation humaine, et ça passe déjà aussi par la manière dont on travaille et qui est de prendre soin les uns des autres. Ça, j'ai beaucoup de fierté à travailler dans une association qui a cette cohérence-là. Sinon, un niveau un peu personnel, c'est-à-dire que je trouve que je suis privilégié, j'ai beaucoup de chance à pouvoir exercer, comme beaucoup de monde, comme quasiment tout le monde, j'ai un loyer à payer, il faut bien que je me nourrisse, et j'ai l'énorme privilège de pouvoir exercer mon activité professionnelle qui soit en concordance avec mes convictions politiques. C'est-à-dire que je me lève le matin pour aller travailler. Mon travail consiste à essayer de faire avancer ma conviction pour un monde plus juste et qui passe. Il y a énormément d'aspects de considération, mais ça passe notamment par les libertés informatiques. Et donc, je mets ça un peu en œuvre tous les jours et c'est beaucoup de fierté que je peux le faire.
Ça entre en résonance en moi parce que tu es en train de dire que ton activité professionnelle correspond quelque part à ce que les Japonais appellent l'ikigai, la raison d'être. J'en ai parlé dans une conférence il y a quelques années en 2011 et effectivement on est heureux quand on fait ça. Mais écoute, je te remercie. Donc c'était Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Et donc après la pause musicale, nous accueillerons donc Isabelle Carrère d'Antanac pour sa chronique. Mais d'abord, nous allons faire une pause musicale. Donc en attendant la chronique d'Isabelle, j'espère que vos sens sont toujours en éveil, que vous êtes prêts à danser. Laissez-vous porter par le rythme. Nous allons écouter El Refé par Saint Blas Posse. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune.
Nous venons de danser sur El Refé par Saint Blas Posse, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Nous allons poursuivre avec Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Ontanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Ontanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Donc Isabelle est avec nous pour cette deuxième émission de rentrée. Je crois que tu veux nous parler de la rentrée.
Bonjour, oui, c'est la rentrée.
Ben vas-y.
Et merci de cette musique qui est réjouissante, juste avant d'intervenir. Oui, la rentrée d'Ontanac. Bon, pour tout le monde, la rentrée, on sait, on fait des projets, entre guillemets, où on se donne des résolutions, où on se dit, bah, tiens, ça va être fait de quoi cette année-là? Et du coup, pour Ontanac, on s'est dit, bon, je vais pas parler là des questions matérielles ou de fonctionnement. Parce que, bon, on en a plein, des questions. Hein. Vous vous souvenez de ce qui nous était arrivé avant l'été. Donc, du coup, oui, on cherche un local plus grand. Oui, il faut qu'on se donne de l'espace, puis qu'on passe à autre chose. Mais en tout cas, là, ce dont je voulais parler, c'est plutôt qu'est-ce que nous avons constaté tous ces derniers mois et quelles sont nos urgences et nos points de vigilance d'un point de vue politique, j'allais dire. Alors, j'avais, en préparant cette petite chronique-là, je me suis dit, bon, en fait, il faut qu'on arrive, on se l'est dit à plusieurs dans le noyau d'Ontanac, à remonter des groupes de réflexion, des groupes de parole. Et on a trois grands sujets, en fait, sur lesquels on a envie travailler, avancer. Il y en a un, je ne vais pas l'exposer ici parce que c'est tellement votre sujet que on est tout petit, nous, à côté de ça. Donc, c'est la façon dont les gens considèrent le libre, au sens général et générique. La façon dont les membres, les personnes qui viennent chercher un ordinateur sont plus ou moins sensibles à ces sujets. Et malgré toutes les explications qu'on peut apporter, on se rend compte que c'est pas aussi important pour eux que pour nous, en fait. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver d'autres vecteurs, d'autres façons de mieux l'expliquer, de mieux rentrer dans cette chose-là pour que ça fasse partie de leur monde. Et que ça soit pas simplement quelque chose avec lequel ils reviennent en disant « On m'a demandé pourquoi j'avais ça, mais pourquoi il n'y a pas Windows ?» En fait, voilà, toutes ces questions-là, il faudrait qu'on arrive. Mais bon, c'est un des premiers sujets. Et le deuxième, ce deuxième sujet, c'était sur la question culturelle, dont on se rend compte que plus ça va, plus les gens qui viennent nous voir sont très très omnubilés en fait par le fait qu'il faudrait que tout ce qu'ils reçoivent ou tous les savoirs qu'ils vont chercher, etc., ne passerait que par le numérique. Et du coup, ça m'a fait repenser à un petit fascicule que j'avais, qui était paru en septembre 2020, donc d'une rentrée, l'autre rentrée, un petit fascicule chez Tract de Gallimard, de Philippe Forest. Philippe Forest, c'est à la fois un écrivain, un romancier et puis un professeur d'université. Et il avait écrit quelque chose là, l'université en première ligne à l'heure de la dictature numérique. Je voudrais vous en lire deux, trois passages, et notamment celui qu'il décrit sur la question culturelle, parce que ça nous pose des vraies questions par rapport à ce qu'on voit des jeunes et des enfants quand ils repartent avec un ordinateur et qui vont servir d'un navigateur et de Firefox et qui vont aller chercher des savoirs. Voilà ce qu'il disait en septembre 2020. « Mettre en ligne le savoir revient à accepter d'être dépossédé de sa pensée qui, immédiatement et irréversiblement, se trouvera soumise au protocole en vigueur sur Internet. Le monde numérique se recopie lui-même à l'infini, anonymisant très vite ses sources et surtout soumettant en cascade ses contenus à des modifications qui les altèrent et très souvent les défigurent, sans qu'aucune régulation ne soit plus envisageable. Faire connaître la culture au plus grand nombre est un objectif louable, qu'assuraient autrefois la pédagogie et la vulgarisation. Mais la circulation du savoir à grande échelle et à toute vitesse, telle que la rendent possible les nouvelles technologies, conduit à sa dénaturation. Au lieu d'inviter à sa découverte et de constituer ainsi une sorte de passerelle conduisant à la culture, Internet, trop souvent, en condamne, en fait, l'entrée. L'univers numérique, en raison de l'hégémonie dont il jouit, s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin, son horizon exclusif. Plus rien d'autre n'existe que ce qui y circule. Et il continuait avec la copie numérique, évince l'original au lieu de susciter le désir de le connaître, etc. Donc il disait, on est content quand on a lu un article sûr plutôt qu'aller chercher le texte pour de bon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça, la question de l'univers numérique en raison de l'hégémonie dont il jouit, s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin. On constate que chez les personnes qui viennent et qui découvrent, en quelque sorte, Internet et l'immense territoire qu'ils ont devant eux, territoire virtuel, mais territoire quand même de savoir, d'information, de connaissances, on arrive à oublier que ça n'est que potentiellement une porte vers d'autres choses. Et ils se mettent à penser que c'est que là qu'il faut être, que c'est que là qu'il faut aller chercher, qu'il n'y a plus que cette question. Et même nous, du coup, au sein de l'association, c'est une question intéressante à se poser de qu'est-ce qu'on leur propose, en fait, quand on leur donne un ordinateur et qu'on explique. Et qu'on parle de discernement et qu'on dit voilà, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une techno. Ok, mais jusqu'où on va pour faire la démonstration de ça, ou en tout cas être suffisamment en clarté nous-mêmes pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. On n'est pas en train de dire que il faudrait que tout le monde ne soit plus que sur le numérique et il faudrait que tout s'y passe. Et en même temps, on répond aux injonctions de la société à y être, pour les démarches administratives, bref, pour tous les sujets qui sont ceux-là, et puis pour l'éducation, et donc d'une certaine manière aussi sur la culture. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir discuter de ces sujets-là avec les personnes qui viennent nous voir et qui... Alors peut-être pas au moment où elles viennent chercher un ordinateur, mais justement essayons de trouver
un apéro.
Ça peut être un apéro, un apéro, un groupe de parole, quelque chose. En tout cas, voilà. Et puis il y a juste à côté de ça, il y a la conscientisation, j'allais dire au niveau de la parentalité, où on a bien vu qu'il fallait également qu'on puisse continuer de s'adresser aux parents des enfants et des jeunes qui viennent chercher des ordis. Et notre troisième sujet serait sur le thème très 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 d'actualité de la surveillance numérique. Et là aussi, donc Philippe Forest disait une petite phrase juste au milieu de son bouquin, la supériorité des régimes démocratiques sur les régimes autoritaires ou totalitaires. Bon, on a vu en ce moment que beaucoup de gens regardent en exemple ou en contre-exemple ce qui se passe en Chine, mais donc cette supériorité se mesure au fait que les premiers n'ont même pas besoin d'un parti unique pour procéder à une surveillance que les réseaux sociaux ou autres suffiront à exercer très efficacement et avec des effets que nul encore ne mesure très bien. Il le mettait au futur, les réseaux sociaux suffiront, en fait on peut dire suffisent, on peut le mettre tout à fait au présent. Et donc voilà, mais cette surveillance numérique-là, je pense qu'on a également un rôle, à Antanac ou ailleurs, mais en tout cas on a tous et toutes un rôle à jouer sur l'explication de par où elle passe, y compris avec la question du libre, mais pas simplement, c'est-à-dire aussi la question de l'utilisation et ou de ce qu'on admet, ce qu'on accepte, hein, le QR code de cette affaire-là de passe, donc sans E, je ne veux pas mettre de E, hein, on n'est pas français, de passe sanitaire. Ben voilà, qu'est-ce qu'on accepte en faisant ça? Et demain matin, qu'est-ce qu'on accepte d'autre? Bon, ce sujet-là, si on ne le traite pas maintenant et qu'on n'en débat pas, ça va être vraiment très très compliqué et on en resterait sinon à des refus ou des résistances trop individuelles, voire individualistes, et on n'élabore pas une pensée à partir de ça simplement. Quoi. Voilà, la rentrée d'Antanac, ça sera ça. Bon, ce sera d'autres choses aussi, mais en tout cas, ça sera ça d'un point de vue de la réflexion et de la prise de parole.
D'accord. Avant de passer aux annonces de fin, j'ai quand même une petite question, mais qui n'est pas en lien avec ce que tu viens d'expliquer. C'est plutôt de savoir comment vous allez à Antanac, parce que avant l'été, et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de savoir comment vous allez. Avant l'été, il faut expliquer un petit peu. Antanac, donc c'est au 18 rue Bernard Dimet, donc c'est juste à côté de la radio. Il y avait un espace extérieur végétalisé, puis avec des sortes de bancs, avec des palettes, etc., et qui a été, on va dire, détruit par des abrutis. Donc comment vous allez maintenant? Comment vous sentez suite à cette agression?
Alors, d'une certaine manière, on va mieux, dans le sens où on arrive à faire en sorte que nos cerveaux oublient d'attendre de voir la terrasse quand on arrive, mais parfois c'est pas le cas. Là encore, tout à l'heure, je suis arrivé, idiot, bien sûr, il n'y a plus rien. Donc on continue à être comme une espèce de deuil étrange, très très bizarre, parce que les espaces continuent de contenir en fait des choses. Mais on va mieux quand même dans le sens où on s'est relevé, on a relevé la tête sur ce que ça voulait dire ou les explications ou les hypothèses qu'on a faites sur ces sujets. Et puis surtout parce qu'on a décidé de s'en aller.
Ah, vous partez donc du quartier?
Ah bon, on partira quand on aura trouvé autre chose.
D'accord.
Mais si tu veux, ça correspond, et il faut pas le voir de manière que négative, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à un moment où de toute façon, on n'a plus assez de place. Il faudrait que chacune vienne, prenne le temps de passer dans le sous-sol des locaux d'Antanac. C'est juste dramatique. Parce que comme on ne veut pas mettre n'importe où au rebut les morceaux de composants que nous avons, que nous faisons un tri hyper le plus précis que possible entre le plastique, le métal, le cuivre, etc., et qu'on peut pas aller donner une toute petite quantité de cuivre, donc par exemple, donc on attend d'en avoir beaucoup. Mais du coup, ce on attend là, il faut avoir l'espace pour mettre tout ça. Donc ça tombe bien, il nous faut un local plus grand. Donc voilà, on cherche, si quelqu'un a une idée d'un local plus grand, 200 mètres carrés, quelque chose en rez-de-chaussée.
Quel que soit le quartier.
De préférence aux portes nord de Paris, parce que ça continue à faire du sens pour nous que d'être par là.
Ouais. Et donc en le plein pied, tu dis, c'est-à-dire.
Ouais, il faut que ça soit en rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, le moins que possible en sous-sol, parce que du coup, dans cette salle en sous-sol, on travaille, on fait trop de choses et c'est pas sain, c'est pas correct, c'est pas comme ici, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'aération, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est pas.
Je suppose que c'est un peu comme ici, c'est pas accessible, hein. C'est-à-dire que l'escalier.
Et puis voilà.
Pour personne en mobilité réduite.
Exactement.
Ça, voilà.
Exactement. Et puis, Donc 200 mètres carrés. Ça doit se trouver, non?
À coût réduit, on va dire, hein, bien entendu. Quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, vous êtes toujours nos voisins et voisines. Hein, ça, et c'est vrai, quand tu parlais de la terrasse et de faire. On s'attend à ce qu'elle soit là. C'est vrai que quand je suis arrivé tout à l'heure, parce que ça fait quelques temps que j'étais pas venu, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit là parce que c'était très très sympathique. Et encore une fois, voilà, ce sont des abrutis, on peut même dire des connards, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de féminiser le mot, a priori, malheureusement. Donc en tout cas, bon, on est content de voir que ça va un peu mieux quand même. Oui. J'ai vu qu'il y avait sur la porte, il y avait une petite affiche qui expliquait que ce qui était dehors est dedans. Donc si vous passez au 18 rue Bernard Dimet, n'hésitez pas à regarder cette affiche et puis à toquer hein, pour demander. Alors c'est pas ouvert tous les jours, hein, mais en tout cas, c'est souvent ouvert. Quoi. Oui. C'est ouvert quel jour d'ailleurs,
Isabelle? C'est fermé, on va dire plutôt, c'est plus simple. C'est fermé le mardi, le vendredi et le dimanche.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc je répète, c'est au 18 rue Bernard Dimet. Et vous pouvez aussi écouter Isabelle sur Radio Cause Commune dans l'émission, son son émission sur l'habitat qui s'appelle Un coin quelque part.
Merci.
Par contre, je me souviens plus, parce que moi j'écoute en podcast, je me souviens plus quand est-ce qu'elle est diffusée.
C'est le lundi à 14h30.
Le lundi à 14h30, mm-hmm. Et puis sinon, c'est en podcast sur causecommune.fm. Eh bien écoutez, c'était la rentrée de la chronique donc que libéraux d'autres du logiciel. Que du logiciel, la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère. Donc nous approchons de la fin de mission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, les annonces de fin. Bon, j'en ai juste parlé d'un apéro. Et ben, les apéros parisiens du Libre organisés par nos amis de Paris Nux reprennent. Le prochain aura lieu mercredi 15 septembre 2021 à partir de 21h au Kerbir, rue Vandamme, dans le 14e arrondissement de Paris. Ben, c'est pas très loin du local de l'April. Donc voilà, apéro parisien 15 septembre à 21h au Kerbir. On a parlé tout à l'heure en premier sujet de la fête des possibles. Je vous rappelle le site web fete-despossibles.org du 10 au 26 septembre et Marie Cellier a expliqué que les dates pouvaient aussi se prolonger. Les journées du logiciel libre vont commencer à être réorganisées, enfin en tout cas on l'espère hein, de plus en plus, et notamment les journées du logiciel libre de Lyon qui traditionnellement ont lieu au début du printemps, donc là on parle du printemps 2022, mais les organisateurs et organisatrices commencent à recruter des bénévoles. Et donc, elle propose, l'équipe d'organisation propose une réunion. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas noté la date, je suis un peu con, quoi. Ah si, elle est là. Le jeudi 23 septembre à 19h, donc à la Maison pour tous, donc à Lyon, donc c'est 249 rue Vendôme. Mais bien entendu, vous trouverez tous les détails sur ces événements sur le merveilleux site de l'agenda du libre.org. Dans les annonces, je poursuis en rappelant que donc nous avons préouvert un site dédié aux émissions Libre à vous, donc c'est libreavous.org sur lequel vous pouvez retrouver tous les podcasts, et je remercie encore Jean Galland, Antoine Bardelli, Vincent Calame pour la mise en place de ce site. Si vous avez des remarques, des suggestions, vous nous envoyez un courriel à bonjour@libreavous.org. Je vous ai tout à l'heure expliqué les fonctionnalités, notamment sur le lecteur audio avec la gestion du chapitrage, la gestion de la vitesse de lecture, la possibilité d'accéder à une émission directement par son numéro. Donc je répète l'exemple, c'est Vidéolan, si vous voulez vous renseigner sur le lecteur multimédia VLC. Avec Jean-Baptiste Kempf, c'était l'émission 42, vous allez sur libreavous.org/42. Si vous voulez en savoir plus sur XMPP, la messagerie instantanée, et l'émission donc animée par Adrien Bourmeau, c'était l'émission 91 de mémoire, donc c'est libreavous.org/91. C'est super pratique ce truc là franchement. Je ne sais plus qui a eu l'idée, mais en tout cas je remercie cette personne. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie Seyer, Isabella Vanni, Étienne Gonu, Fabrice Noël, Pichoum, Isabelle Carrère. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, Adrien Bourmeau. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio. Merci de nouveau à Adrien qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm et bientôt sur le site libreavous.org. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavous.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Par exemple, lundi soir, Karim a repris ses émissions qui s'appellent Et pour Cause, dans lequel il interviewe des gens qui font... qui portent des causes, qui font évoluer la société. Le dernier podcast que j'ai écouté, c'était qu'avec un maître d'école. C'était très intéressant, donc c'est le lundi à 21h. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Isabelle Carrère, Un coin quelque part. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 21 septembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien. Ah bah j'ai été pas assez rapide. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.